Merci Tiphaine, bon week-end. Invités des chants, des enfers, des siamois, des sirènes, des dibouks, un poète bossu, un bestiaire, des diables ou demi-diables et même un peu d'alchimie, avec Michel Orcel, traducteur de Dante et Leopardi, et Jean-Luc André Dasciano pour un premier roman monstre et non moins italien.
La compagnie des poètes par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à 16h. Michel Orcel, Jean-Luc André Dasciano, bonjour, bienvenue à tous les deux.
Bonjour à vous.
Bonjour. De monstres et d'Italie, il sera donc question aujourd'hui. Monstres à deux têtes, deux sexes et trois jambes avec vous, Jean-Luc André Dasciano, éditeur. Les éditions de l'Œil d'Or fêtent d'ailleurs tout juste leurs 20 ans. Qui signait un premier et copieux roman aux forges de Vulcain, 520 pages entre romans d'aventure, uchronie déviante par définition, fantaisie baroque et romans d'initiation habités de créatures, de bêtes, d'un rabbin même, de diables athées, de sociétés secrètes dans une Italie du Sud, fantasmés monstres comme Gabriel et Raphaël, nés frères siamois, dont les chants ont le pouvoir prodigieux ou infernal, plus ou moins maîtrisé, de tordre la réalité, c'est-à-dire, par exemple, ouvrir les portes, faire pêche miraculeuse ou même parler avec les morts. Et comme ça tombe bien, d'enfer, il est question avec vous, Michel Orcel, poète, écrivain, traducteur. Et je précise que vous êtes avec nous depuis France Bleu Azur à Nice. Traducteur, disais-je, la liste est longue et majuscule, Leopardi, beaucoup et tout le temps. Et c'est Canti hein, qui reparaissent aujourd'hui dans votre traduction en poche chez Flammarion. Le oui. Tasse d'Annunzio et puis tout fraîchement une traduction nouvelle de la comédie de Dante. Et pour commencer, L'Enfer qui paraît aux éditions La Dogana. Au-delà de votre insatisfaction, on va peut-être pas revenir dessus, hein, quant aux traductions qui vous ont précédé, Jacqueline Risset comprise, qu'est-ce qu'il vous a fallu attendre, Michel Orcel, avant d'affronter ce texte, hein, si tant est que le mot soit juste, hein. Vous qui dites que par sa nature, par son époque, par sa dimension théologique, ce poème-là vous semblait originellement inaccessible.
Oui, je pense que pour affronter Dante, il y a deux conditions indispensables. La première, c'est d'avoir un instrument prosodique adéquat. Et deuxièmement, d'avoir une maturité et également une ouverture à la fois spirituelle, je dirais, enfin au sens le plus large du terme, naturellement, également idoine. Ce qui m'a permis peut-être d'approcher Dante, c'est que j'ai fait aussi autrefois de l'islamologie et il se trouve que j'ai étudié beaucoup un grand soufi, un grand philosophe mystique arabe qui s'appelle Ibn Arabi et qui a été probablement un inspirateur de Dante. C'était un chantre de l'amour spirituel à travers le visage de la femme, à travers la beauté féminine. Et je crois qu'on peut dire que une de ses héroïnes, bien qu'il n'ait pas écrit de roman, c'est une héroïne qui est le sujet et l'objet d'un de ses recueils de poésie mystique, l'interprète des ardents désirs, comme on l'a traduit en français, s'appelait Nizam. Et cette Nizam est l'équivalent, au fond, dans le monde arabe, arabo-persan, disons, de la Béatrice de Dante.
Jean-Luc André Dasciano, dont le roman touffu est parfois infernal, hein, n'est pas sans lien de fond comme de forme avec la comédie. Est-ce que ça veut dire qu'il est impossible d'écrire un roman italien sans lui ?
C'est difficile, en fait. C'est vrai que Dante Alighieri a infusé, fécondé, enfin, lui, le Boccaccio, enfin, il y a... Ces fameux écrivains qui ont, entre guillemets, fondé la langue italienne ont aussi créé un imaginaire propre à l'Italie, tant du sud que du nord. Je rejetais un coup d'œil à l'Enfer de Dante avant de venir, et sur cette géographie du diable au centre de la terre, des cercles de l'enfer, etc. Et je crois que c'est des choses que toute personne d'origine italienne apprend de manière presque naturelle, par des espèces de contes et légendes familiaux. Moi, je connaissais l'univers de Dante sans connaître Dante quand j'étais petit. Il y avait tout un tas de trucs. On me racontait ce que tel péché, enfin ceux qui se faisaient manger le crâne ou des choses comme ça. Je savais pas que ça venait de Dante, par exemple. Donc il y a vraiment un imaginaire dantesque qui est infusé dans toute l'Italie.
La chanson du gondolier, un extrait de l'Othello de Rossini, acte 3, scène 1, et c'est Dante que chante le gondolier, hein, trois vers tronqués issus du chant 5 de l'Enfer. C'est vous qui avez demandé cet extrait, Michel Orcel, de Rossini. J'imagine que c'était aussi, en écho à ce que vient de dire Jean-Luc André Dachano, que c'était aussi une façon de rappeler la façon dont Dante avait pu irriguer la culture populaire.
Oui, certainement, et là, de façon très étonnante, parce qu'on s'attend très peu, et je pense que peu de gens savent que Rossini a pu mettre en musique des vers de Dante. Et jusqu'à une date très récente, le peuple italien lui-même, ce que on appelle bêtement les classes populaires, avait une culture extraordinairement vivante des classiques, qui passait notamment à la fois par le dessin, par la musique, et également par des versions dialectales qu'on donnait des grands poèmes, par exemple le Tasse, dont on parlait tout à l'heure, la Jérusalem délivrée, a été traduite dans tous les dialectes d'Italie. Donc, si vous voulez, il y avait une présence très vivante de la culture la plus littéraire dans les campagnes italiennes. Voilà. Et Rossini lui-même, donc, a trouvé tout normal de mettre dans la bouche d'un gondolier, qu'on ne voit pas d'ailleurs, hein, qui est là.
Qui normalement est en coulisses, oui.
Voilà, qui est en coulisses normalement. On l'entend, donc là, vous avez choisi par bonheur, on a choisi une version qui est très claire. Mais en réalité, on entend la voix du gondolier en coulisses. Il est censé être au lointain. C'est un jeu d'ailleurs assez moderne dans l'opéra de l'époque, qui chante donc trois vers tronqués, comme vous l'avez bien dit, du chant 5, c'est-à-dire du chant de Paolo et Francesca, c'est-à-dire des victimes du désir.
Que vous traduisez donc en son entier ces trois vers, Michel Orcel, comme suit. Et elle, à moi, il n'est plus grande douleur que de souvenir des temps heureux dans la misère, et ton maître le sait. Est-ce que vous voulez bien nous faire lecture, justement, d'un extrait de ce chant 5, hein, puisque le « et elle à moi », dit le poète, elle, c'est Francesca.
Francesca. Alors oui, en deux mots, disons, présentons la scène. D'abord, le chant 5, c'est pratiquement la véritable découverte de l'enfer par Dante, accompagné, mené, guidé par Virgile. Et le premier cercle, donc, c'est le cercle des gens victimes du désir, qui ont été victimes du désir charnel, disons-nous. Et alors, ce désir est allégorisé et symbolisé par une espèce de vent, n'est-ce pas, qui tourne, qui emporte les âmes, qui emporte les ombres, pécheresses, dans un tourbillon incessant et éternel. Et parmi ces ombres, Dante a tout d'un coup le désir, il exprime à Virgile le désir de s'adresser à deux ombres qu'il voit enlacées. Et ces deux ombres sont celles de Paolo et Francesca, qui se sont aimées de façon adultère et qui ont été d'ailleurs poignardées par le mari de Francesca. Et Francesca raconte son histoire à la demande de Dante, elle accepte de raconter son histoire. Dante lui dit ceci: « Francesca, tes martyrs me font triste et piteux jusqu'à pleurer. Mais dis-moi, dans le temps des doux soupirs, à quel signe et comment amour permis que vous sachiez vos incertains désirs ? Et elle à moi, il n'est plus grande douleur que de se souvenir des temps heureux dans la misère, et ton maître le sait. Mais si tu as tant passion de connaître de notre amour la racine première, je le dirai, mais le dirai pleurant. Par dilection, un beau jour, nous lisions comment amour étreignit Lancelot. Nous étions seuls et sans aucun soupçon. Plus d'une fois, cette lecture fit lever nos yeux, nos visages pâlir. » mais un point seul put triompher de nous. Lisant que cette lèvre désirée avait été baisée par tel amant, s'estui, dont rien ne me désunira, la bouche me baisa tout en tremblant. Galeot fut le livre et son auteur. Ce jour-là, nous ne l'eûmes plus avant. Et cependant que me parlait cette âme, l'autre pleurait, si bien que d'émotion, je défaillis comme si je mourais, et comme tombe un corps mort, je tombais.
Merci. Et le poète, donc, d'en perdre connaissance. Jean-Luc André Dachanoux, je me demandais si c'était une coïncidence fortuite que d'ouvrir votre roman sur la voie d'une morte, en l'occurrence d'un personnage nommé Francesca.
C'est une coïncidence. Je cherchais le prénom pour ce personnage féminin qui est quasi invisible tout le long du livre et ce qui d'ailleurs amène une certaine culpabilité chez les frères qui se disent mais en fait on a une sœur, elle est morte et on n'a même pas pris la peine de vraiment la connaître on a du mal à porter son deuil. Et je cherchais un prénom et j'avais Francesca en tête et je savais pas trop pourquoi, ça me paraissait étrange parce que je ne connais aucune Francesca, je n'en ai jamais croisé. Et puis il y a pas très longtemps, on m'a dit mais c'est la Francesca de Dante puisqu'elle démarre des enfers. J'ai dit mais oui, on est encore dans cette espèce de circulation culturelle qui fait que Dante est là même si on ne le sait pas vraiment. Francesca, c'est celle qui parle du domaine des morts.
On est d'accord. On en revient à Rossini, à son gondolier et à ses trois vers. Hein, et la comédie est un poème aussi qui se compte. 14 233 vers et trois comme la Trinité, évidemment, comme les trois cantiques, les trois règnes et puis les 33 chants, plus le chant inaugural de l'enfer hein, dans lequel Dante commence par raconter son égarement spirituel. 33 chants donc organisés en strophes de trois vers, hein, des vers de 11 syllabes et selon un enchaînement bien particulier, celui de la rime terce, hein, donc la fameuse terza rima qui relance le poème selon le schéma, alors pardon c'est un peu technique, hein, A, B, A, B, C, B, C, D, C, hein, c'est-à-dire un vers au cœur de la strophe, dont la rime est reprise en attaque de la strophe suivante, et ça crée comme ça un effet de vague, de pulsation, de tressage, disait Jacqueline Rissé. Ces fameuses rimes terces, qu'est-ce qu'elles permettent au fond à Dante? En quoi ce rythme-là serait créateur de sens et de pensée, sans doute?
Le rythme est primordial dans la poésie. Le rythme entraîne le sens, en quelque sorte. Il m'est arrivé de traduire, ça je fais une allusion au Tasse, à la Jérusalem délivrée, il m'est arrivé de traduire des stances du Tasse sans les comprendre. Mais j'étais emporté par le rythme. Et je crois que vraiment la poésie a gardé cette empreinte musicale qui est à l'origine de son histoire, puisque la poésie était chantée originellement. Elle fait quand même partie de la tradition, comment dirais-je, presque magique du Carmen latin. Donc je crois que le rythme l'emporte sur le sens. Hein. Donc ça me paraît très important ce que vous venez de dire. Et s'agissant de la tierce rime, je pense qu'il est clair que cette façon de nouer chaque tercé au précédent à travers le jeu de cette rime qui revient de façon triplice permet naturellement une dynamique extraordinaire du récit. Je pense qu'il ne faut pas non plus je pense qu'elle est très importante dans l'œuvre originale, mais qu'on n'a pas nécessairement besoin de la transcrire en français pour faire sentir ce rythme qui n'est pas, comme le disait mon ami Jacqueline Rissé, dont nous regrettons la perte depuis quelques années, qui n'est pas, selon moi, une question de vitesse, pas du tout, mais en revanche une question de dynamique, certainement. Il y a dans la comédie énormément d'arrêts, de stations, de reprises, de pauses, d'accélérations, de mouvements. Voilà, donc tout ça est tressé, justement, grâce à cette structure qu'a inventé Dante, hein, à partir des troubadours, je dirais. Mais il a quand même inventé, Dante est quand même l'inventeur de la tierce rime, et l'inventeur de l'italien aussi, ne l'oublions pas. Alors, je me permets d'ailleurs d'ajouter très rapidement, parce que je ne veux pas occuper le terrain, mais je me permets d'ajouter une chose très intéressante, c'est que le monde fantasmagorique et démoniaque du livre de Jean-Luc Dachanoux ne correspond pas seulement avec Dante, mais consonne aussi avec Leopardi, parce que Leopardi a écrit des petites œuvres morales, enfin les operette morali, que je traduis moi par petites pièces philosophiques, dans laquelle il y a beaucoup de personnages fantasmagoriques, et notamment des gnomes, des follets, le diable, enfin voilà, il y a beaucoup d'éléments aussi un peu monstrueux et un peu et très très passionnants d'un point de vue à la fois dramatique, si vous voulez, et mythologique.
À ajouter donc au bestiaire de Jean-Luc André Dachalon.
J'avoue, je connais assez mal Léopardi, donc je vous remercie grandement pour cette référence et cette précision, parce que ça, je cherche une porte d'accès, et celle-là, voilà, elle est
une.
Merci.
Alors j'en reviens, pardon Michel Orcel, à cette affaire de rime, donc que vous avez choisi de ne pas conserver, comme la plupart d'ailleurs de vos prédécesseurs, moins une, je pense à Danielle Robert, qui elle s'y est essayée à conserver cette rime dont on venait de parler, ce tressage. Qu'est-ce qui, d'après vous, résisterait alors en français à sa conservation?
J'aime passionnément l'italien, j'aime passionnément le français. Ce sont deux langues qui sont naturellement apparentées par un tronc commun, mais qui sont extrêmement différentes dans leur prononciation et dans leur histoire. Et d'abord parce que nous, du point de vue historique, Sainte-Beuve le disait déjà à propos de Léopardi, notre colline est très proche, la colline originale est très proche, elle commence avec le 17e, hein, voilà, 16e, 17e, disons. Bon, déjà nous avons du mal à lire Montaigne, bon. Tandis que en Italie, elle commence avec Dante. Justement, donc vous vous rendez compte, fin 13e, début 14e siècle. Alors ça c'est la première chose, une grande différence d'un point de vue historique et d'un point de vue vocal, d'un point de vue phonique, car quand même la langue c'est ça, c'est quand même la phonée, eh bien l'italien est rempli de voyelles. C'est une langue vocalique, essentiellement vocalique, si bien que la rime a beaucoup moins de valeur qu'en français. On la sent beaucoup plus, elle est beaucoup plus présente, beaucoup plus pressante, beaucoup plus lourde en français qu'en italien. Si bien que il ne s'agit pas de l'abandonner totalement, et moi je ne l'ai pas abandonné, j'ai joué sur des assonances, j'ai joué sur des rimes récurrentes, mais un peu à la façon dont Léopardi lui-même a élaboré la nouvelle poésie italienne, en abandonnant des schémas trop stricts, et donc je me suis tenu à une sorte de, si vous voulez, de jeu entre la liberté du vers décasyllabe, toujours décasyllabe, mais à final libre, et puis un jeu de rimes ou d'assonances qui continue à structurer, si vous voulez, le discours, à tenir le discours.
Alors comment, Michel Orcel, pardon, on rentre un tout petit peu dans le détail, mais la contrainte de la rime, alors effectivement, même si la rime italienne est moins, disons, moins contraignante ou moins lourde que la rime française, cette contrainte-là, elle participe de l'inventivité de la langue de Dante, j'imagine, dans l'Enfer. Elle participe d'une langue qui dit aussi beaucoup la difficulté, l'encombrement, les obstacles à traverser pour Dante et Virgile en traversant les neuf cercles. Comment faire alors pour traduire justement tous ces obstacles qui sont aussi qui transparaissent en fait dans la langue de Dante?
Traduire Dante, bien que par moments il soit d'une clarté tout à fait moderne, je dirais, hein, le premier vers de l'Enfer est déjà de l'italien moderne. Nel mezzo del cammin di nostra vita, c'est de l'italien moderne. Hein, voilà, bon. Alors il y a des passages extrêmement obscurs et abscons, et en revanche, bon, qui s'opposent à cette clarté bon, et à cette limpidité. Et je pense que si vous voulez, pour traduire tout ce que la langue de Dante a de médiéval et d'obscur, par ses références théologique, par ses constructions syntaxiques, par toutes sortes de références, d'usage aussi de modes latinisants. Bon, tout ça pose déjà un certain nombre de problèmes, d'obstacles réels, matériels, auxquels il faut répondre par des moyens, par des procédés, à la fois techniques et en même temps intuitif, senti. Et je pense que s'encombrer en plus d'une volonté de rimer tous les vers serait une folie. Voilà. Donc je crois qu'on a déjà, si vous voulez, on peut déjà transmettre ce que vous pointez avec beaucoup de justesse, beaucoup de pertinence, c'est-à-dire qu'il y a une équivalence entre les obstacles que Dante rencontre dans sa marche, dans sa descente dans les enfers, et ensuite quand il remontera vers le purgatoire aussi, il y aura d'autres obstacles, des escaliers à monter, des échelles, une ascension de montagne. Eh bien, tous ces obstacles, on les rend déjà à travers la langue elle-même, sans avoir recours nécessairement à la tiercerie.
Alors, quelles ont été vos ruses? Parce qu'après tout, traduire, c'est aussi ruser, j'imagine.
Quand je traduis un texte, je me garde d'abord de lire toute traduction, et je me garde même de relire le texte original. Je veux me mettre dans une situation, naturellement, une sorte de métaphore, si je puis dire, gestuelle, mais j'essaye de me mettre dans les pas du créateur, comme si j'étais vierge, pour me laisser vraiment, en quelque sorte, pénétrer par le texte lui-même et refaire avec le poète, avec le créateur, son trajet, son voyage. Voilà. Et là, d'ailleurs, ça consonne naturellement très très bien avec le sujet même de la comédie.
Comme si votre vie en dépendait, même, dites-vous.
Oui, comme si ma vie en dépendait. C'est pour ça, d'ailleurs, que certains poèmes dont je ne suis pas, de certaines traductions dont je ne suis pas content, je ne cesse de les reprendre, de les refaire. J'en suis à ma 4e traduction de certains poèmes de Leopardi, vous voyez, étalés depuis 1980 ou 90. Donc, c'est pour vous dire que, voilà, je pense qu'il y a une très grande liberté aussi dans ce travail de traducteur.
Alors justement, puisque vous évoquez ces reprises de traduction, alors les vôtres, et puis de manière générale, ce qui justifie notamment votre entreprise en ce qui concerne Dante, vous êtes de ceux qui pensent qu'il faut, retraduire tous les demi-siècles. On écoute une lecture d'un poème de Leopardi, sans doute son poème le plus célèbre, que tout Italien connaît, et qui s'appelle L'Infini.
Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando. E mi sovvien l'eterno, e le morte stagioni, e la presente e viva, e il suon di lei. Così, tra questa immensità, s'annega il pensier mio e il naufragar m'è dolce in questo mare.
L'Infini, donc, de Leopardi, dit ou lu ici par le comédien italien Arnoldo Foa. L'Infini, qui est donc ce poème que Leopardi écrit en 1819, je crois, il a 20, 21 ans, quelque chose comme ça. À peu près au moment d'ailleurs où il commence la rédaction du Zibaldone. Et qu'il place à la première place en général, enfin qu'il a placé d'ailleurs à la première place de ce qu'on a appelé les idylles, qui est donc un registre des poèmes de Leopardi et qui figure évidemment dans les chants qui paraissent en poche aux, et qui reparaissent en poche aux éditions Flammarion et dont vous avez donc donné plusieurs traductions. Alors peut-être que c'est l'occasion de nous les lire, Michel Orcel.
Bah écoutez, je vais vous lire seulement les deux dernières, mais effectivement, j'ai commencé ma première traduction des chants remonte à 1981. Elle était parue à l'âge d'homme dans des conditions d'ailleurs typographiques déplorables, mais éditoriales déplorables. Mais enfin, bon, voilà, elle est parue en 81. Et ensuite, je me suis remis au travail diverses fois. Et là, je vais vous donner donc les deux versions. La version qui est proposée par Flammarion qui vient de réimprimer donc l'intégralité de ma traduction des Canti en poche. Et puis je vais vous donner la traduction que j'ai faite assez récemment et dont vous jugerez la différence des deux et peut-être les progrès, j'espère, entre les deux traductions. Alors voici la première. Toujours tendre me fut ce solitaire mont et cette haie qui, de tous bords ou presque, dérobe aux yeux le lointain horizon. Mais couché là et regardant des espaces sans limite au-delà d'elle, de surhumain silence, un calme on ne peut plus profond, je forme en mon esprit, où peu s'en faut, que le cœur ne défaille. Et comme joie le vent, bruire parmi les feuilles, cet infini silence-là et cette voix, je les compare, et l'éternel il me souvient, et les mortes saisons, et la présente, et vive, et son chant. Ainsi par cette immensité ma pensée s'engloutit. Et dans ses eaux, il m'est doux de sombrer. Et voici maintenant la seconde, inédite, donc vous êtes les premiers à l'entendre. Toujours j'aimais ce petit col sauvage, et cette haie qui presque tout autour prive les yeux du lointain horizon. Mais assis là, contemplant des espaces, sans nulle fin, sans terme, de surhumain silence, une quiétude si profonde, je m'invente en l'esprit, où peu s'en faut, que le cœur prenne peur. Et comme joie, le vent brille parmi les feuilles, cet infini silence-là et cette voix, Je les compare et me vient l'éternel et les mortes saisons et la présente, vivante et sa rumeur. Ainsi dans cette immensité s'égare ma pensée et naufragée mes doux sur cette mer.
Merci. Alors ce qui frappe, indépendamment effectivement des différences qu'on entend dans la traduction elle-même, c'est que vous ne les lisez pas de la même manière, les deux.
Ben, je pense qu'elles appellent chacune une lecture différente, tout simplement. Non ? Vous ne croyez pas ?
Manifestement, oui. Oui.
Non, je pense, alors, je pense que ça vient du texte. Je pense oui. que ça vient du texte, tout simplement.
Qu'est-ce que ça voudrait dire qu'un progrès pour un traducteur, Michel Orfel ?
La question du progrès, je pense qu'elle est naturellement liée à la réciprocité, si j'ose dire, entre l'original et la traduction. Et également à un élément qu'un personnage qui malheureusement nous a quitté très tôt, qui s'appelait Antoine Berman, a décrit de façon tout à fait merveilleuse dans un livre qui s'appelle « L'épreuve de l'étranger » chez Gallimard. Et ce phénomène très étonnant qu'il a décrit est en quelque sorte la potentialisation de significations, de concepts qui seraient présents dans le texte original et qui seraient voilés dans la langue originale et que la traduction permettrait de mettre au jour. Alors ça, je pense que ça, c'est un élément dont il faut tenir compte pour juger d'une traduction. Encore une fois, sa fidélité par rapport à l'original, d'un point de vue phonique et sémantique, et en même temps, les potentialités que la traduction peut développer par rapport à l'original lui-même.
Arrivaro le navi, tante navi a Palermo, le pirate sbarcaro. Con le facce d'inverno ne rubero lo sole e restavo all'oscuro che scuro Sicilia chiangi tutto l'ora l'aranci liberate a rubare le campagne spogliate.
La voix rauque de Rosa Balistreri, hein, la cantatrice du Sud, chantant I Piratu à Palermo, pardon pour l'accent, et de contrebandier d'Italie du Sud, de mer, de chant, il est largement question dans Souviens-toi des monstres. Premier roman que vous signez, donc Jean-Luc André Dachano, sous l'influence ignorée donc, de Léopardi, hein, aux forges de Vulcain, de cela et de bien d'autres choses, hein, dans ce roman magique qui raconte la folle épopée de Gabriel et Raphaël, siamois au pouvoir prodigieux et terrible, siamois dont les chants peuvent tordre la réalité, hein, grandi dans une Italie du Sud, dans un village imaginaire de pêcheurs et de contrebandiers, donc Sainte-Marie des Deux-Mers, qu'on retrouvera adulte et toujours siamois à Abrou, hein, où les frères trouveront abri dans un cirque, le bien nommé Chapiteau des Fumerolles. Alors à bien y chercher, cette Italie-là pourrait être celle du XVIIIe siècle, et encore, pas tout à fait sûr, avec quelques libertés en tout cas et anachronismes, parce qu'évidemment tout est possible. Pourquoi fallait-il que le décor se plante à ce moment-là ?
Pour la temporalité, j'avais volonté d'avoir une espèce d'arrière-paysage, d'arrière-pays, qui se place avant la société industrielle, avant l'apparition de la vapeur et des machines à vapeur. Et du coup, après, j'ai un peu oscillé, puisque c'est à la fois un univers où, en termes de personnages magnifiques, on est de plein pied avec la Méditerranée antique. On a des centaures, on a des sirènes, tout ça coexiste. Et le rapport au dieu au pluriel n'est pas plus problématique que le rapport au dieu au singulier. Donc, on est vraiment sur l'antiquité de la Méditerranée. Et puis après, il y avait, en termes de peinture, de fresques, de mouvements maritimes, quelque chose qui était plus du Quattrocento, du Trecento, des primitifs italiens. J'ai été très influencé par les peintures de Giotto. Et donc, on a plein de personnages qui passent leur temps à peindre des fresques dans des états plus ou moins seconds. Donc, le résultat est parfois un peu étrange. Et ça, c'était une référence directe à Giotto. Et après, j'avais un goût pour ces grandes villes maritimes italiennes post-baroques, comme Palerme. Donc, des villes qui ont été baroques, qui ont été un peu abîmées par des tremblements de terre, qui ont été reconstruites et qui sont assez immenses, assez tentaculaires. Donc, je mettrai trois grandes périodes, début 18e, 300, 400 et en même temps une espèce de nature hantée par tout un tas de dieux de l'Antiquité.
Alors, donc ça c'est pour le temps. Il faudrait évidemment s'attarder aussi sur les lieux. Alors je pense évidemment à cette île, je pense à la ville. Alors tout ça est en plus décrit avec force détail, j'imagine, avec des images sous le nez. Hein. Donc si on entre dans la cuisine et à vous lire et à cavaler dans les narrations multiples pour le lecteur, on a évidemment envie d'entrer dans cette cuisine. Comment faire progresser un tel roman? C'est-à-dire comment faire avancer un tel texte hein?
D'abord, j'ai quand même grosso modo pris 10 ans pour l'écrire, donc il y a des mouvements. Au moment où je commence le livre, je sais comment cela se termine. J'ai une idée assez claire du début, de la fin et des enjeux. Par ailleurs, j'avais publié un recueil de nouvelles qui s'appelle Cigogne en 2015. Et la première nouvelle de Cigogne s'appelle Siamois et c'est le plan en 6 pages de ce roman qui en fait presque 600. Donc, il y a une idée assez, enfin j'avais une idée assez précise de la construction. Je savais que ça ferait 3 parties et je voulais que ça fasse entre 60 chapitres. Voilà, 60, 61. Je pouvais aller jusqu'à 66, mais pas plus. Pareil, là j'avais quand même une idée par rapport au rythme de Dante et de ses constructions. C'est 30 ou 33, je ne sais plus.
33 plus 1.
Voilà, 33 plus 1. Je trouve que ça fonctionne bien comme rythme. Et après, il fallait impérativement, bon, quand on écrit un roman sur la durée, il y a des périodes de creux, d'abandon, de patine ou autre. Je voulais vraiment, chaque fois que je commençais une partie, puisqu'il y a 3 parties, arriver au bout, quitte après à me faire une respiration parfois d'un an ou deux pour repartir et recommencer en ayant de nouveau la totalité de la partie en tête.
Alors oui, parce que vous dites, donc il y a effectivement 3 parties extrêmement lisibles. Alors c'est encadré par 2 chants, mais 3 parties lisibles. Je suis Gabriel, hein, qui est donc écrit à hauteur d'enfance, hein, par la voix de l'un des Siamois. Je suis Raphaël, à hauteur d'homme cette fois, hein, alors que les frères ont quitté leur île natale. Et puis une dernière partie, plus courte, mais plus touffue aussi, plus rapide, hein, comme une sorte d'accélération chorale cette fois, avec un final infernal dont je ne dévoilerai absolument rien. Est-ce que vous voulez bien nous en lire les premières pages, Jean-Luc André Dachanin ?
Je me lance. Mon frère vient de sombrer dans le coma, à moins qu'il ne faille le considérer comme mort. Si cela est vrai, nous accomplissons alors un miracle de plus, une obscénité nouvelle, celle d'être à la fois mort et vivant. Car plus que le gardien de mon frère, je suis mon frère, son jumeau, sa chair, son double perpétuel, nous sommes siamois. Notre apparence externe est un décompte simple et violent. Nous possédons 3 jambes, 2 sexes, 2 bras, 2 têtes. Nos organes internes, eux, sont d'une complexité telle que les décrire, les comprendre ou simplement les énumérer conduirait au plus étrange blasphème. Mon frère, mon éternel gaucher, me semble mort. Je ne vais pas tarder à le rejoindre. Sophia nous veille, Sophia nous pleure, notre sœur, notre mère, notre dévouée, si incroyablement maigre et chaste, si incroyablement nécessaire. Puisse notre mort la délivrer, j'aimerais chanter. Nous sommes nés monstrueux et notre vie fut belle. Nous sommes nés au plein milieu d'un été admirablement chaud. Nul signe mystérieux, plus de crapauds, migration de rats, passage de comètes à la ponctualité détériorée, naissance d'Aniel à 6 pattes ou tournée de saltimbanque à grelots n'annonça notre venue. Simplement le ventre anormalement rond de notre mère, son cri de douleur lorsqu'elle accoucha, son silence obstiné lorsqu'elle nous vit. La sage-femme, qui avait présidé à notre enfantement, elle, parla. On raconte qu'elle ne put s'empêcher de vomir en nous voyant. Non pas tant à cause de notre difformité qu'en raison de notre vitalité. Alors qu'elle songeait à écouter notre existence, elle croisa notre double regard. Nous étions exceptionnellement vivants, indubitablement humains. Elle vécut cela comme une extrême menace. L'impossibilité pour elle de décider quoi faire, le haut le cœur qui s'en suivit, la manière dont notre mère l'observait, conduisirent l'accoucheuse à sortir précipitamment de la maison, à vomir donc, puis à s'enfuir en direction du village. Là était le monde, les hommes, la vie simple et le prêtre. Elle arriva, haletante, et parla. Une horreur, un miracle, quelque chose, nous.
Vous écoutez France Culture, La Compagnie des Poètes, par Manu Farid.
Gabriel, donc, l'un des deux frères siamois, le premier hein, d'une d'une ronde, d'une foule de personnages, de bêtes, de créatures, de chimères, de croisements improbables qui sont tous nommés et surnommés, hein, ce qui rend parfois la lecture un peu acrobatique, puisqu'ils ont parfois plusieurs noms. Gabriel Raphaël surnommé donc Quatre Couilles, on comprendra pourquoi, ou les deux voix, Sophia la sœur, les frères nommés par leur ordre de naissance, Rasputin le diable, ou encore Ventrater, ou Jacobo le rabbin, ou Grégorio le maître de la parade du cirque, hein, cracheur de feu, et Anna son bras droit et femme à barbe, évidemment je ne les cite pas tous. Écrire, est-ce que ça serait ça aussi pour vous, Jean-Luc André Dachano, c'est-à-dire nommer? Et puis peut-être même nommer les morts, puisque c'est par ça que vous commencez.
Alors nommer, c'est vraiment fondamental en fait. Le tout personnage, je prends vraiment du temps pour lui trouver un nom. Alors il y a peut-être une espèce de vieux fantasme kabbalistique ou autre qui dit que à la création du monde, Dieu présente les animaux à Adam et Ève, et c'est Ève qui leur donne un nom, et que un être pour être vivant doit avoir un nom, et que celui qui n'a pas de nom ne peut pas vivre mais ne peut pas mourir non plus. Il y a tout un appareillage kabbalistique et symbolique autour du nom et de la nomination. Et je crois vraiment que nommer un personnage, c'est déjà le socle le plus important pour la narration. Après, il y a peut-être une vengeance de lecteur frustré, c'est que j'adore Dostoïevski, mais quand je lis ses textes, au bout de 30 pages, je ne sais absolument plus qui est qui, il faut que je recommence, que je note les noms, etc. Donc peut-être que quelque part, un peu méchamment, je me suis dit, je vais faire pareil.
Vous avez glissé d'autres choses, caché d'autres choses, Jean-Luc André Dachano, dans Souviens-toi des monstres. Alors, donc, parler là des personnages, de l'époque, des lieux, même fantasmés, mais qui puisent dans des sources nombreuses, hein, que vous listez en partie d'ailleurs dans les remerciements, et même dans le corps du texte, hein, où apparaît même parfois clandestinement votre catalogue d'éditeurs, puisque vous citez, je sais pas si vous citez l'intégralité de votre catalogue.
Pas l'intégralité quand même, j'évite pour les titres d'urbanisme qui feraient un peu bizarre dans le texte. Mais c'est vrai que le Sang Noir de Bertrand Hell ou Tarantella d'Alcide Lumbria apparaît. Il y a des titres que je remets quasiment tels quels. Il y a aussi des titres de livres que j'ai beaucoup aimés qui apparaissent comme ça par moments.
Est-ce que c'est une manière d'écrire en éditeur ou de rappeler que éditer, c'était déjà écrire, hein, pour vous?
Je pense qu'éditer, c'est déjà écrire. C'est une manière très étrange, l'édition, de tourner autour de l'écriture et de ses propres obsessions. C'est vrai que, par exemple, j'avais publié Des monstres et prodiges d'Ambroise Paré en ayant déjà en tête cette envie d'écrire un texte sur des frères siamois. Que le Tarantella d'Alice de Lumbria, qui est un livre magnifique sur l'histoire de la tarentelle, tant du point de vue musicologique que politique, a nourri ma troisième partie. Que le Sang Noir de Bertrand Hell était un moyen pour moi de me revivifier. En fait, j'adore les forêts, mais les forêts européennes et françaises sont tellement clairsemées, apprivoisées, transformées en périurbains par moments, qu'on a du mal, quand on s'y promène, à se rappeler leur sauvagerie. Et ce texte de Bertrand Hell m'a redonné un souffle. Alors, bizarrement, il n'y a pas tant de forêts que ça dans Souviens-toi des monstres, mais Rasputin est clairement une espèce de Bacchus ou de faune, et donc sa sauvagerie narquoise. J'ai publié des textes qui ont servi à mon écriture, et je pense que l'éditeur, comme le traducteur d'ailleurs, sont des formes étranges, exotiques, annexes de l'auteur ou de l'écriture en tout cas.
Oh! extrait de l'acte 3 de la Traviata de Verdi, bien sûr, interprété ici, bien sûr, à nouveau par Maria Callas en 53. Tout est fini, chante Violetta, donc. Vous, Jean-Luc André Dachiano, c'est par là, ou presque, hein, que tout commence, j'exagère un petit peu. En tout cas, votre Italie à vous, vous qui avez grandi à Nantes, avec une Italie, disons, fantasmée ou rêvée, hein, celle-là même à partir de laquelle vous avez construit celle du
tout
livre, une Italie que vous ne connaissez au fond qu'en presque touriste, j'exagère un peu là aussi, et en tout cas par la voix de votre mère qui chantait à la maison,
tout
des airs
fait.
De Verdi, sans doute pas celui-là, enfin, j'espère pas celui-là, mais en tout cas qui chantait des airs de Verdi à la maison, une Italie qui fait signe aussi chez vous avec l'ajout à l'André paternel du nom de votre mère, Dachiano. Alors en plus de Verdi, quelle est l'Italie que votre mère vous a transmise, ou dit autrement dans le roman, qu'est-ce que l'Italie, fantasmée jusque dans sa géographie d'ailleurs, doit à cette transmission maternelle?
Alors, ma mère ne lit pas du tout, ni le français ni l'italien. En revanche, elle aimait beaucoup regarder au cinéma, au ciné-club, cinéma du soir, je ne sais plus comment on appelait ça, à la télévision française, tous les films italiens sous-titrés français, néo-réalisme. Donc j'ai eu une grosse culture cinématographique du néo-réalisme italien par son biais, et puis aussi toute la culture culinaire qui m'a été transmise, puisqu'elle a, elle a une formation de cuisinière. Et donc, on a mangé un nombre incalculable de variantes de spaghettis, de pasta, de lasagne, de poissons grillés, de sardines bec figues, etc. Donc, une grande culture italienne par la cuisine. Et puis, on allait en Italie quand même. On allait dans les Pouilles, on allait en Calabre, on allait en Sicile. On y partait avec une amie 6 ou une amie 8, à l'époque. Donc, une petite voiture à l'intérieur de laquelle il y avait mon père, ma mère, mon frère et deux chiens.
Deux chiens qu'on retrouve par ailleurs.
Je les ai grossis et
rendu
plus burlesque, mais oui, j'ai toujours eu deux chiens à la fois et aussi un chat, mais ça dans le bouquin il n'apparaît pas, il est caché, enfin il est très caché. Et on a fait comme ça l'Italie, on partait, c'était un périple, on partait de Nantes, on allait jusque dans le sud, ça prenait 4 jours, on s'arrêtait dans plein de villages, etc. Il faisait 40-45 degrés dans la voiture, les chiens bavaient beaucoup, comme mon frère les aimait pas, les deux chiens étaient sur mes genoux, il y en avait un qui faisait 30 kilos. C'était un vrai périple et on a fait comme ça plein de petits villages. Dès qu'on voyait un pic avec un village dessus, mon père disait « Où on y va ?» Et on tournait, on y allait, on se mettait sur la place du village et on y buvait un café, on y mangeait quelque chose et on repart. Donc c'était vraiment des périples et de très bons souvenirs d'une découverte à hauteur de mes 8-10 ans et à hauteur de l'ami 8 familial qui nous a amené, qui m'a amené moi à me faire tout un univers. Et du coup, on voyait beaucoup de villages médiévaux en fait, puisque ce qui est perché sur les pics montagneux de l'Italie, c'est des villages de la Renaissance ou de l'Italie moyenâgeuse.
Il y a cette Italie du Sud, il y a un rapport particulier aussi à la religion, ou en tout cas au rituel, hein, beaucoup de processions aussi dans ce roman. Des enfants à pères multiples et inconnus, une sœur terriblement protectrice, des femmes bienveillante, un patriarcat lourd, hein, dans lequel les personnages féminins, pour le moins résistants, tâchent de se trouver une place. Une mère méditerranée très présente aussi, qu'on serait tenté presque d'écrire avec un E. Est-ce que ce roman-là, ce premier roman-là, ce serait quelque chose comme un roman maternel, ou en tout cas un roman de fils?
Il y a sûrement quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, c'est une manière de rendre hommage ou de concrétiser cette étrangeté que d'avoir un imaginaire qui provient d'un imaginaire enfantin qui provient d'un pays qui n'est pas tout à fait le sien, et d'être en termes de culture entre deux terres ou entre deux mers, je ne sais pas, de grandir en France, mais d'avoir que des référents italiens dans la famille, et d'imaginer, ma mère me parlait tout le temps de l'Italie du Sud de manière de plus en plus imagée, étrange et déformée. Et donc oui, c'est un hommage à tout ça, et il y a toute une évidence culturelle d'un univers moyenâgeux flamboyant et magnifique qui se situe entre la Toscane et la Sicile.
Alors vos frères siamois, en tout cas ceux du roman, sont protégés durant leur enfance, comme vous, hein, par deux chiens, deux immenses matins de Naples, hein, Gaspard et Balthazar, et puis des figures doubles, vos personnages vont en croiser bien d'autres. Ces siamois-là, Voix d'ange, vous l'avez dit, hein, faisaient déjà leur apparition dans un précédent recueil de nouvelles. D'où vient cet intérêt, ou cette obsession même, je dirais, pour la figure du double? Est-ce que c'est la façon dont la question du singulier s'y pose? Alors, je précise, parce que c'est peut-être encore un autre lien que vous avez avec Michel Orcel, vous avez, il y a fort longtemps, soutenu une thèse sur Genet en psychanalyse de la littérature. Et je rappelle que Michel Orcel est psychanalyste.
tout se croise. Alors la figure du double, ça évidemment, bon, il y a les histoires, on va dire personnelles ou familiales. J'avais un frère handicapé qui est mort il y a quelques années. Je pense que quand on grandit avec un frère aîné handicapé, avec toute la complexité que ça implique en termes du rapport à la fraternité, à la dépendance, à l'amour et à la détestation en même temps mélangés, on a un rapport surtout quand on n'est que deux enfants, un rapport à l'autre frère qui est extrêmement complexe et très ambivalent. Et du coup, on développe aussi un rapport soi-même très ambivalent. Est-ce qu'on aime son frère ou est-ce qu'on déteste son frère? Donc déjà, il y a une idée sur l'ambivalence. C'est très, très concret, très psychanalytique aussi, mais très évident. Ensuite, il y a toutes les portes couvrent au torrent qui sont magnifiques sur le double dans les cultures chamaniques, mais pas seulement. C'est-à-dire l'idée que...
Otto Rank, hein, le psychanalyste autrichien.
Tout à fait.
Contemporain de Freud.
Otto Rank, on connaît deux grands textes d'Otto Rank, son texte sur Don Juan et son texte sur le double, qui sont souvent publiés ensemble d'ailleurs. Et dans son texte sur le double, il explique que le double, ça peut être le frère jumeau mort ou le frère jumeau qu'on n'a jamais connu mais qui est de l'autre côté. Le double, c'est celui qui est de l'autre côté, dans le domaine des morts ou dans le domaine des limbes, enfin, qui est ailleurs et qui peut être malfaisant ou bienveillant, mais qui ouvre des portes de communication. Donc cette idée-là m'intéressait aussi beaucoup. Je pense qu'il y a une ambivalence interne, et puis il y a l'ambivalence du double qui ouvre vers la mort, la vie après la mort, ou la vie avant la mort, ou d'autres formes de communication avec une société beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, qui est sur différents niveaux, supraterrestres, infraterrestres, etc.
Alors tout un tas d'obsessions que vous venez de citer, qu'on retrouve largement mises en scène dans un film, devant ou dans lequel, hein, vous avez peut-être écrit. On en écoute un extrait.
On dit que je suis dangereux. Voilà pourquoi on m'enferme.
Mais comment tu es dangereux?
Écris ton nom sur ce morceau de papier. Je n'ai que ce crayon et il est mal taillé, mais il faudra bien qu'il fasse l'affaire. Très bien. Alexandre Ekdal. Maintenant, lis-nous ce que tu viens d'écrire.
Il y a écrit Ismaël Redzinski.
Nous sommes peut-être la même personne. Aucune frontière ne nous sépare. Nous coulons peut-être l'un au travers de l'autre. Deux ruisseaux qui n'en font plus qu'un seul, magique et infini. Tu as des pensées terrifiantes. C'est presque insoutenable de rester à tes côtés. Mais c'est aussi très attirant. Tu veux savoir pourquoi?
Je crois que je ne veux pas le savoir.
Apparition donc de la figure de l'ange gardien, autre figure du double, quoique pas tout à fait, Fanny Alexandre de Bergman, hein, en 82, que vous avez vu et revu dans toutes ses versions, Jean-Luc André Dachiano, un conte terrible et merveilleux sur l'enfance, là pour le coup, sur la fratrie, la religion, la loi, dans lequel les anges terrifient et protègent, les enfants font revenir les morts, et puis un antiquaire juif, il parle de cabale, hein, on y retourne. Elle est là, la première référence du roman.
À mon sens, c'est la grande référence. Fanny Alexandre, c'est un film que j'ai vu dans sa version de 3h30, sa version de 4h30, et puis dans la version téléfilm, qui doit faire, je crois, 4 fois 4h15, ou 4 fois 1h15, enfin bon. J'ai vu, j'ai revu, j'ai macéré, j'ai oublié, j'ai repris. On a tout, on a le duo de l'enfance avec le regard sur les adultes, on a les absurdités des adultes et les absurdités burlesques. Je me souviendrai tout le temps de cette scène où le père meurt et dit à son épouse, en parlant de son enterrement, surtout fait simple, et le plan suivant qui est extraordinaire, c'est l'enterrement du père avec tout le théâtre et toute la ville en procession avec des oriflammes, et le fils qui est au début de l'enterrement et qui dévide un chapelet de grossièreté et de jurons tout bas, qui est à la fois une manière d'insulter la mort et aussi d'insulter ce non-respect de la demande du père. Ce film est magnifique et à l'intérieur du film, il y a des scènes de théâtre, des scènes de marionnettes, donc des choses qu'on retrouve aussi dans mon roman, cette espèce de mise en abîme des différents modes de représentation. Et il y a cette figure de l'antiquaire qui est extraordinaire,
Qu'on retrouve dans le livre, dans la figure de Jacobo,
c'est clairement une référence directe. En fait, l'antiquaire de Fanny Alexandre se retrouve à la fois dans Jacobo et dans Beger, puisque Beger est un anarchiste marionnettiste et Jacobo est un rabbin un peu défroqué et un peu dépressif, mais qui est aussi un amateur de cabale. Et cette scène dans le film est extraordinaire, puisque les deux gamins qui ont été maltraités par le second époux de leur mère, qui est un pasteur rigoriste et intégriste, partent se réfugier, enfin l'antiquaire les enlève et les amène chez lui. Et chez lui, il y a des marionnettes géantes. Alors dans la version longue, il y a des inserts un peu étranges de danse dans la boue, enfin des choses un peu mystérieuses. Et au détour de leur exploration de cette espèce de maison sans fin, de maison dédale, puisqu'on a l'impression qu'elle est plus grande à l'intérieur qu'au vu de l'extérieur, ils découvrent un ange enfermé avec toute l'ambivalence de l'ange. Et alors, je vais spoiler Fanny Alexandre, mais l'ange, pour les aider, va quand même faire brûler vif quelqu'un. C'est assez extraordinaire. Et ça aussi, c'est une non-violence que j'aime beaucoup, puisque mes gamins ont comme ami un diable, Rasputin. Et avoir un diable pour ami, c'est quand même compliqué. C'est pas nécessairement la meilleure des choses.
Un diable, des marionnettes. Alors vous y ajoutez un véritable bestiaire. Alors donc des chiens, beaucoup de chiens, hein, qui portent parfois le nom des rois mages, des boucs, des écureuils, des béliers, une baleine très melvillienne, je suppose.
Oui,
des croisements improbables. Alors un centaure, bien sûr, mais aussi une femme poule, une femme chat ou serpent ou sirène, hein, qui ne mange que de la viande crue. Et puis un diable ou demi-diable, expert forcément en métamorphose, hein, jusqu'à la dernière, infernale, qui est donc ce Rasputin, hein, ce diable athée. De quoi se charge-t-il, hein, ce personnage-là, ce Rasputin, qui traverse quasiment tout le livre.
Et il est le gardien. Alors là, on est encore dans l'enfer de Dante, puisque cette île a des portes qui communiquent avec les enfers, et même un labyrinthe au hubohu où les âmes, quand on s'y perd, on se dédouble en différentes versions de soi-même à différentes époques, sans pour autant, lorsque ces doubles se croisent, ça se passe pas nécessairement très bien. Donc il est la mémoire de tout cela, il est aussi un grand pasticheur de langues, il parsème le roman de manuscrits plus ou moins moyenâgeux, de correspondances plus ou moins diverses, etc.
Qui est truffé de faux traités d'ailleurs.
Oui, tout à fait. En fait, ce diable, c'est un peu la figure de l'écrivain en réalité, puisqu'il est celui qui sait, celui qui écrit, celui qui parfois intervient dans le récit pour dire « ha ha ha, mais c'est n'importe quoi ». Voilà, on a souvent tendance à... L'ego de l'écrivain peut l'amener des fois à se prendre pour le dieu du récit. J'ai préféré me prendre pour le diable du récit.
Alors, est-ce que je peux dire un mot?
Oui, bien sûr.
J'ai très envie de poser une question, enfin deux questions même à Jean-Luc Dasciano. En l'écoutant, d'abord, je suis très sensible à l'aspect, au fond, au parterre, à l'arrière-plan sémitique, au fond, de son récit, avec la Kabbale, d'abord, et puis tout le monde sicilien, qui est un monde, quand même, on l'a entendu tout à l'heure, dans Il Pirato di Palermo, c'est presque du chant arabe, enfin, bon, il y a du tuf arabe, quand même, en Sicile, et dans le monde napolitain aussi, d'ailleurs. Donc, je voudrais savoir, au fond, si ce fond sémitique, visiblement, la Kabbale le passionne, donc je pense qu'il va me répondre positivement, donc, là-dessus. Et la deuxième question, c'est la question de cet immense conteur napolitain qui s'appelle Giambattista Basile, qui a été le premier à rédiger les contes que nous connaissons, nous, sous des versions extrêmement édulcorées de Grimm ou de Perrault, mais qui, dans leur forme originelle, qui date donc de l'époque baroque, ont une crudité, une violence, une drôlerie, enfin, qui tout à fait extraordinaire. J'étais le premier à éditer en France un choix de ces contes. Donc, Giambattista Basile a écrit un livre qui s'appelle « Lo conto degli conti », le conte des contes, et c'est donc des récits dans le récit, c'est d'ailleurs le monde d'une certaine manière, c'est le monde des mille et une nuits aussi, hein, qui, à mon avis, dont Jean-Luc Dasciano n'est pas très loin, je crois, à comprendre aussi. Donc voilà, il y a à la fois le monde sémitique qui m'intéresse aussi dans tout ça, et puis ce grand conteur, je voulais savoir si Jean-Luc Dasciano connaissait Giambattista Basile.
Alors pour la partie cabale, évidemment, je m'y suis beaucoup intéressé. Je trouve que l'imaginaire cabalistique est assez fantastique. En fait, pour le faire à l'envers, étant un amateur de littérature fantastique, j'ai découvert que la littérature fantastique, avant d'être la littérature, alors avant d'être le cinéma contemporain marvelien ou autre, ou d'être la littérature du 19e ou des contes, etc., s'appuie aussi, entre autres, sur une tradition à la fois d'un côté antique et de l'autre. Plein de choses liées à la cabale, qui va du golem au dibouk, enfin, voilà, il y a vraiment une chose qui est magnifique là-dessus. Et puis il y a un rapport à l'écriture, au verbe comme force nominatrice, hein, qui est assez fondamental à mon sens. Quant au conte des contes, moi je le connaissais pas directement. J'ai lu des bouts, des extraits, je savais que c'était renvoyé à. Donc là, j'ai une connaissance assez indirecte. L'intérêt de la connaissance indirecte, c'est que ça permet de fantasmer beaucoup et de s'autoriser plein d'approximations. Mais non, le conte des contes, c'est quelque chose que je dois impérativement lire.
Ah, je crois.
Et j'avoue que j'ai, quand, à un moment donné de l'écriture
bien
du roman...
Bien, vous repartez avec une bibliothèque.
Voilà, exactement.
Jean-Luc, André Dacciano, Michel Orcel, c'est la fin de cette émission, hein, ou presque, hein, puisque je vous laisse la terminer entre vous. Donc l'un ici, à Paris, l'autre à Nice, ce qui n'est sans doute pas chose simple. Et ça sera sans moi. Alors bon après-midi à vous, à toutes et à tous.
Merci.
Merci.
Alors Jean-Luc Dacciano, ben, il ne vous reste plus qu'à m'envoyer votre livre. Hein.
Oui, voilà, on va se faire, on se fera hors antenne, un échange d'adresse.
Et puis vous pianoterez sur mon site et
exactement.
Vous verrez les titres qui vous intéressent et je me ferai un plaisir de vous les envoyer.
Oui, on va procéder comme
on va communiquer.
Mais Léo Paradis, c'est rigolo parce que quand j'étais gamin et que j'entendais le nom de Léo Paradis, évidemment, je voyais un léopard et j'imaginais un aristocrate avec un blason en forme de léopard en train de chevaucher.
Effectivement, la famille Léo Paradis porte effectivement un léopard pour arme et c'est une famille noble, très noble, qui date du 13e siècle, je crois. Ce que vous me dites me fait un rappel un mot de Sainte-Beuve merveilleux. Lorsque Sainte-Beuve a en quelque sorte découvert en France, il a révélé en France le génie de Léopardi. Et il disait de Léopardi, ce nom si bien frappé pour la gloire.
Ah, c'est beau.
C'est beau et c'est vrai. C'est vrai, on retient Léopardi. Quoi. C'est un nom extraordinaire, mais qui ne correspond pas au personnage, puisque Léopardi était petit, bossu, très malingre, et il est mort à 39 ans dans un état de grande souffrance.
Oui, ça doit être un peu difficile.
Mais en même temps, disait Walter Benjamin, c'était une épée. C'était une épée, et c'est vrai que sa pensée est fulgurante. Et dans sa fragilité même, voilà justement un monstre. C'était un monstre, d'une certaine manière, Léopardi, mais dans sa monstruosité, il a apporté quelque chose de profondément lumineux au sein même de la noirceur de sa pensée.
Alors, une question sur l'enfer. Il y a deux vers de l'enfer qui sont consacrés à la famille Dacciano, qui se retrouve en enfer pour avoir énormément dépensé d'argent à un moment donné.
Oui.
Et la traduction sur laquelle j'étais tombé à l'époque, c'était la brigade dépensière. Et du coup,
oui,
je me demandais...
Je ne sais plus comment je l'ai traduite, peut-être la brigade des... La brigade, c'est un mot intéressant, parce que c'est un mot très, très italien, la brigata, qui veut dire la compagnie. Là, voilà, bon. Et alors, je ne sais pas comment... J'avoue que je n'ai pas en tête la traduction que j'ai fournie, d'autant que je suis en train de finir le purgatoire. Alors, donc l'enfer est déjà loin pour moi, par bonheur.
Oui, heureusement.
Mais je me rappelle très bien, effectivement, qu'il y a les Dacciano, et qui doit être dans le cercle des prodigues. Voilà, je crois.
Parce que pour la petite histoire, on leur avait annoncé l'apocalypse, et ils se sont dit, ah bah puisque c'est comme ça, faisons la fête. Et ils ont dépensé une fortune colossale et ils sont restés dans l'histoire de la région comme des dépensiers fastueux et absolument inconséquents.
Oui. Et bien voilà, vous portez un beau nom alors.
Ça renvoie à l'enfer de Dante, c'est magnifique.
Des poètes, c'est vendredi prochain, même heure, même endroit. Merci à Jason Taous, à France Bleu Azur à Nice pour le duplex. Merci à Manuel Couturier pour la technique ici à Paris, à Thierry Beauchamp pour la préparation et à François Connac pour la réalisation. Vous trouverez toutes les actualités de Michel Orcel et Jean-Luc André Dacciano sur le site de l'émission, à réécouter, podcaster ou partager sur franceculture.fr. Et tout de suite, c'est l'heure de Nicolas Martin et de sa méthode scientifique.